Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Lievin Mwinga Vubu à la présentation.
Bonsoir et merci de choisir Radio Kapi pour vous informer à la une de l'actualité. Guerre d'agression rwandaise contre la RDC, l'Union européenne vient de frapper dur 9 personnalités rwandaises et congolaises sanctionnées pour leur implication dans ce conflit. Parmi ces personnes, Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales rwandaises, Bertrand Bissimwa, coordonnateur adjoint AFC M23, détaille dans un instant. Luanda, capitale des négociations directes entre Kinshasa et le M23 AFC. C'est pour demain mardi 18 mars et la délégation congolaise se prépare à rejoindre la capitale angolaise. Mais sa composition reste encore un mystère jusqu'à présent. Dans ce journal également, les prouesses réalisées par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Au moins 22 projets dans le CER sont en phase d'inauguration sur les 49 retenus. Pour en parler, le directeur général de cet établissement public, Cyprien Moussimar, vous avez compris, il est notre invité. Encore une fois, bonsoir à tous. Guerre d'agression rwandaise contre la RDC. Je le disais en titre, l'Union européenne sanctionne 9 personnalités rwandaises et congolaises pour leur implication dans ce conflit. Parmi ces personnes figurent Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales rwandaises, Bertrand Bissimwa, coordonnateur adjoint AFC M23. Je vous signale que le Conseil de l'Union européenne s'est réuni ce lundi à Bruxelles pour évaluer une nouvelle fois la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où le M23 mène la guerre avec le soutien du Rwanda. Explication avec Étienne Lissoumbou qui nous dévoile aussi tous les noms des personnes sanctionnées.
Ils sont au total 5 Rwandais et 4 Congolais. Côté Rwandais, il y a Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales rwandaises, récemment remplacé par Hakizimana Maurice. Eugène Kubito, commandant de la 3e division RDF, cette brigade de l'armée rwandaise déployée dans l'est de la RDC depuis 2022. Pascal Muizi, commandant de la 2e division de la RDF. Francis Kamanzi, CEO de Rwanda Mines Petroleum and Gas Boats. Il y a aussi l'entreprise Gasabo Gold Refinery, basée à Kigali, qui est également sanctionnée. Côté M23, l'Union européenne sanctionne Bertrand Bissimwa, coordonnateur adjoint FC M23. Joseph Moussanga, nommé gouverneur M23 au Nord Kivu. John Imani Zeze, des nationalités congolaises, présenté comme responsable des renseignements du M23. Rappelons qu'il y a quelques semaines, James Kabarebe, personnalité politique et militaire rwandaise, et Laurence Kanyuka, porte-parole du M23, étaient sanctionnés par les États-Unis.
Les négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 devraient débuter ce mardi à Luanda, en Angola, dans le cadre des efforts régionaux pour restaurer la paix dans l'est du pays. Sous la médiation angolaise, nous venions de le dire, les deux parties en conflit constituent actuellement leur délégation avant de rejoindre Luanda. Les détails dans ce papier de Martial Papimukeba rendu par Grace Amzati.
Selon nos sources, du côté du M23, la délégation est dirigée par Benjamin Bonimpa, secrétaire permanent de la rébellion et se compose de 5 membres. Il est à noter qu'il y a 12 ans, Benjamin Bonimpa avait activement participé à d'autres négociations entre le M23 et le gouvernement congolais à Kampala, en Ouganda, et il serait considéré par la rébellion comme l'un de ses cadres disposant d'une expertise dans le processus des négociations. En revanche, aucune information n'a encore filtré concernant la composition de la délégation gouvernementale, ni sur sa taille ou l'identité de son chef. Toutefois, il est attendu que Kinshasa participe activement à ces négociations. Selon plusieurs sources, les deux délégations devraient commencer à arriver dès cette nuit à Luanda, en Angola. Ces négociations directes qui pourraient constituer un tournant décisif dans la recherche d'une solution durable au conflit interviennent près de 3 ans après la résurgence du M23. Cette rébellion soutenue par les Rwandais occupe actuellement les villes de Goma et Bukavu ainsi que plusieurs autres localités au nord et au sud Kivu. Lievin Mwinga.
Voilà, merci Grace Amzati. Revenons sur l'annonce de l'Union européenne. Quelques heures avant cette annonce, le Rwanda a annoncé rompre ses relations diplomatiques avec effet immédiat avec la Belgique. Le gouvernement rwandais accuse la Belgique, je cite, d'avoir constamment miné le Rwanda bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo dans lequel elle détient un rôle historique et profondément violent, notamment en agissant contre le Rwanda. Fin de citation. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris partie dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda, ajoute Kigali. En réaction, la Belgique dit regretter la décision du Rwanda de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique et de déclarer les diplomates belges persona non grata. Cette décision est disproportionnée et illustre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas dialoguer, indique le ministre belge des Affaires étrangères sur son compte. Maxime Prévost ajoute, je le cite, « La Belgique prendra des mesures similaires. Convocation du chargé d'affaires rwandais AI, déclaration des diplomates rwandais persona non grata et dénonciation de nos accords de coopération gouvernementale. » Fin de citation. Et puis en rapport toujours avec ces négociations directes au gouvernement de la RDC M23, nous vous proposons la réaction du docteur Denis Mukwege. Il recommande l'organisation préalable d'une conférence internationale pour la paix en RDC qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et d'élaborer une feuille de route concertée définissant des actions concrètes au niveau national, régional et international. Dialoguer sous la menace des armes, selon lui, reviendrait à institutionnaliser la loi du plus fort et à conférer une légitimité à l'agression et à l'occupation illégale. Le prix Nobel de la paix recommande enfin l'accentuation des pressions internationales pour veiller à faire respecter les prescrits de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il le dit dans un message partagé ce lundi sur ses différentes plateformes numériques. Vous pouvez écouter Denis Mukwege dans cet extrait proposé par Blaise Makassé.
Les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo. Cette conférence permettrait d'aboutir à une feuille de route concertée définissant des actions concrètes au niveau national, régional et international.
La crise dans l'est de la RDC s'invite aussi à la réunion conjointe ministre des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC, réunion qui s'ouvre ce lundi à Harare et c'est la suite du sommet conjoint tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Les enjeux de cette rencontre avec Stanislas Djouimi.
Cette rencontre revêt une importance capitale dans la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire qui ravage l'est de la République démocratique du Congo. Les ministres des Affaires étrangères des deux organisations ont pour mission d'examiner le rapport de la réunion conjointe des chefs des forces de défense qui plaide pour un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités dans l'est de la RDC. Il s'agit aussi d'établir un mécanisme de coordination technique chargé de surveiller la mise en œuvre de décisions prises par les chefs d'État. Parmi les priorités figure l'élaboration d'une feuille de route détaillée incluant des mesures à court, moyen et à long terme, ainsi que les modalités de financement de l'intervention régionale. Ce sommet ministériel intervient également à la veille de l'entame des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 sous l'impulsion du président angolais João Lourenço. Les conclusions de cette réunion pourront déboucher sur des actions concrètes pour alléger les souffrances des populations affectées par le conflit. L'enjeu est de taille dans tous les efforts consentis pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC et renforcer la coopération régionale pour éviter une nouvelle escalade des violences.
Allons sur le terrain cette fois au Nord Kivu. La psychose continue à gagner la population sur l'axe Walikale, notamment le chef-lieu du territoire à environ 250 km de Goma. Plusieurs sources locales renseignent que la population de Walikale, centre prise de panique, a commencé à se déplacer en direction de Moubi pour certains et d'autres vers Kisangani. Pour cause, les rebelles du M23 AFC progresse davantage et serait, selon plusieurs sources, déjà à 25 km de Walika les centres. Des affrontements violents ont été rapportés le week-end dans la zone entre les M23 et les Wazalendo, occasionnant l'incendie du village Kigoma, mais aussi de l'hôpital général de Kibwa, qui a été touché par des explosions de bombes. Rappelons que depuis au moins 2 semaines, l'avancée des rebelles depuis Niabiondo, Kachébéré jusqu'à Kibwa, Mpofi a jeté sur la rue des centaines d'habitants. Toutes ces personnes se trouvent dans des conditions très difficiles compte tenu de l'enclavement de la zone. Au chapitre enseignement, une lueur d'espoir pointe à l'horizon dans les zones en guerre. Les 619 candidats autodidactes de 3 provinces éducationnelles touchés par la crise sécuritaire vont finalement passer leurs épreuves préliminaires des examens d'État 2025. L'annonce est faite à l'issue de la réunion du Conseil des ministres de vendredi 14 mars dernier. Ces candidats, dont ceux de la province éducationnelle Nord Kivu 1, font face aux défis notamment de l'occupation des rebelles du M23. Plus de précisions avec Bernardin Nyang.
La date du 25 mars pour ces examens préliminaires en faveur des élèves autodidactes du secondaire des provinces éducationnelles Nord Kivu 1 et du Sud Kivu 1 et 3 a été fixée à l'issue d'une réunion de concertation tenue du 10 au 12 mars dernier avec les inspecteurs provinciaux principaux en charge des provinces concernées, indique le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier rendu par le porte-parole du gouvernement. La crise sécuritaire consécutive à l'occupation d'une grande partie des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu a causé la fermeture de plusieurs écoles affectant des milliers d'enfants et des programmes scolaires. Prévue mardi 7 mars dernier sur toute l'étendue du territoire national, l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 pour les candidats autodidactes n'avait pas donc été organisée dans les dites provinces au détriment de 619 candidats. Si la date est fixée pour ce mardi 25 mars prochain, rien ne rassure jusqu'à présent de l'effectivité de ces programmes, indiquent les autorités scolaires au niveau de Goma. Pour ces derniers, en effet, jusqu'à présent, 9 jours avant la date annoncée, les mâles des examens ne sont pas encore arrivés. Et donc, ces derniers attendent l'arrivée de ces examens pour être sûrs.
Mais au Sud Kivu, l'ambiance était inhabituelle ce lundi. Les cours n'ont pas repris dans toutes les écoles de la ville d'Uvira. Cela malgré l'appel de la reprise lancée le week-end par la ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Selon le président de l'association des parents et élèves d'Uvira, beaucoup de parents hésitent encore avant d'envoyer leurs enfants à l'école vu la situation sécuritaire qui, selon eux, ne rassure pas encore. Ninda Bagoma promet de sensibiliser les parents à encourager leurs enfants à reprendre le chemin de l'école pour sauver la scolarité cette année. Ninda Bagoma est joint au téléphone par Martial Kiza Biamungu.
On avait lancé par le ministre provincial de l'EPST en collaboration avec les provinces de l'IPT et toutes les parties prenantes, et nous parents, la représentativité des enseignants par les syndicats provinciaux, c'était toutes les parties prenantes. Évidemment, l'initiative était la reprise programmée pour la date d'aujourd'hui. Il y a une grande réticence à l'endroit des parents qui disent qu'ils ne voient pas que la sécurité de leurs enfants est bien. On est en train de voir si demain ça va aller mieux. Aujourd'hui, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu. Il y a réticence du côté parent parce qu'ils disent que jusque-là, ils ne voient pas la sécurité. Étant donné que M23 est à Kamanyula, ils peuvent avoir contourné même dans les hauts ou les moyens plateaux. C'est comme ça qu'ils doutent encore avec la sécurité de leurs enfants.
Autre actualité, des centaines de maisons résidentielles sans électricité en Mbujimayi. Cela fait 4 jours depuis qu'elles ne sont plus alimentées en courant électrique de la SNEL. Le directeur provincial de la Société nationale d'électricité évoque le problème d'une panne survenue au niveau de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi, construite par la société Sakim. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis le vendredi dernier que des centaines de maisons résidentielles éclairées par la SNEL Mbujimayi sont plongées dans le noir. L'énergie électrique utilisée par la Société nationale d'électricité provient de la centrale hydroélectrique construite par la société Anui Congo d'investissement minier Sasim qui exploite le diamant à Boya dans le territoire de Niabi. Jean-Crispin Mukendi, directeur provincial de la SNEL, promet de se rendre sur place pour travailler avec les techniciens.
Le courant va vous créer la centrale de Toubi-Toubi, c'est pas notre centrale. Lorsqu'il y a des perturbations au niveau de la centrale, ça impacte sur l'alimentation des semaines. Là, je suis en route vers la centrale de Toubi-Toubi pour contrer les techniciens de sa firme et changer avec eux.
Signalons que la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubi produit près de 7 MW d'énergie électrique. 3 ont été attribués à la SNEL selon les accords avec le gouvernement central. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Situation pénible également dans une partie de l'Ituri. Environ 1000 personnes n'ont pas accès à l'eau potable depuis plus d'une année dans le village Koni, dans la chefferie de Walendu Bindi, dans la partie sud du territoire d'Irumu. Selon des sources locales, aucune source d'eau n'est aménagée dans cette localité, ce qui oblige des milliers d'habitants de cette entité à recourir aux eaux souillées des rivières et aux sources d'eau non aménagées. Les notables lancent un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide.
Actualité internationale.
Au Cameroun, des dizaines d'églises sont fermées depuis 2 semaines à Yaoundé. Les autorités ont en effet décidé de sévir contre ces églises accusées de fonctionner sans autorisation et source de nuisances sonores. L'opération engagée dans le 4e arrondissement de Yaoundé a déjà vu près de 300 églises fermées.
L'invité.
Au moins 22 projets de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, sont en phase d'inauguration sur les 49 retenus en 5 ans à travers le pays. Invité de Radio Capi, le directeur général de cet établissement public, Cyprien Moussimar, assure continuer de concrétiser la mission de promotion de l'accès à l'électricité dans un contexte où seul l'État congolais se présente comme sa source unique de financement, a-t-il assuré. Il indique que d'ici à la fin de l'année 2025, ANSER prévoit de produire 30 MW d'énergie dans le Congo profond au profit d'environ 459 330 ménages. Cyprien Moussimar s'entretient ici avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour.
Quel état des lieux dressez-vous de l'implémentation de vos projets d'électrification à travers les pays?
Actuellement, nous sommes en train d'exécuter 49 projets, ce qui fait un total de 53 depuis le début, depuis notre opérationnalisation en 2020 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Et donc actuellement, 49 projets sont en cours d'exécution, 22 sont déjà finis, en essence d'inauguration, en attente d'inauguration, et les autres sont en cours d'exécution. Nous espérons le terminer avant la fin de cette année, en attendant qu'un autre programme puisse être mis en place l'année prochaine.
ANSER a produit combien de kilowatts en 2024 et vous comptez en produire combien au cours de l'année en cours?
Ce programme ici qui a commencé l'année passée et qui se termine cette année, on atteindra 30 MW, 30 MW qui seront produits à la fin de l'année 2025.
Quelles sont vos difficultés tout au long de l'exécution de ces projets, monsieur le DG?
Les difficultés sont énormes parfois surmontables et parfois pas. Les premières difficultés sont financières. Notre bailleur de fonds pour l'instant, le seul bailleur de fonds, c'est l'État congolais. Et vous le savez, l'État congolais actuellement est départagé entre la guerre et financer des infrastructures structurantes. Ce qui fait que, avant de financer l'électrification, l'État congolais doit d'abord sécuriser le pays. Ça, c'est le plus grand défi. L'autre défi, c'est l'état des routes. C'est l'état des routes qui n'est pas bon. On a difficile à accéder au point où nous devons électrifier. Et notre problème, c'est le problème des concessions pour les centrales solaires, essentiellement. Il faut avoir accès au terrain pour implanter des champs solaires, ce qui n'est généralement pas évident. Voilà, ça, c'est quelques-unes des difficultés de façon ramassée.
Pouvons-nous savoir le niveau de partenariat entre la SNEL et l'ANSER?
Nous travaillons ensemble, nous sommes un établissement public. La SNEL est une entreprise commerciale qui vise les bénéfices, qui vise les lucres, nous non. Et dans certains endroits où nous pensons que ça peut être bénéfique à la SNEL et où nous avons les moyens financiers pour pouvoir exécuter les travaux, nous le faisons. Nous l'avions fait ici à dans la banlieue de Kinshasa. Angelo Basseri, nous l'avions fait en Batakiela. Nous sommes en train de le faire à Louvungi, Katogota, mais il y a un problème de sécurité, le projet à l'arrêt. Donc nous collaborons avec la SNEL, mais nous ne parlons pas en termes d'aide. C'est pas vraiment une aide, mais nous finançons les travaux. Le travail se finance, reste une propriété de l'État congolais, reste une propriété de l'ANCER, et que la SNEL exploite après qu'elle ait bénéficié du financement pour exécuter les travaux.
Quel est le coût annuel de votre société?
Ça aurait été un budget, si en tout cas de mon idéal, de mon point de vue, ça aurait été l'idéal aurait été d'avoir un budget assez important à la lumière de ce que a dit le DG dans son exposé. Par exemple, 1 milliard pour le cas de l'Afrique du Sud, 513 millions pour le cas du Sénégal. Nous, l'année dernière, nous n'avions eu que 52 millions dans la location budgétaire du gouvernement congolais, mais n'avions décaissé que 10 millions, donc que 13 millions, que 13 millions vers fin octobre. Vous aviez vu la planification, par exemple, sur deux ans, 2022-2025, on avait estimé 750 millions. Si on pouvait nous donner, vous étalez ça sur trois ans, les tiers de ce que nous avions planifié sur 750 millions, environ 250-300, ce serait un budget appréciable pour pouvoir électrifier le pays à un taux d'accès assez important.
Monsieur le directeur général, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Au nom de Pélé Kipela Mondo et de Mimi Kindou, je vous dis merci de l'avoir suivi. Et surtout, restez toujours branchés sur Radio Kapi pour vous informer minute après minute, heure après heure. Excellente soirée à toutes et à tous.